Tout de suite, donc Estivalitude avec Marie-France Bocassa et Franz-Olivier Gisbert. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors Estivalitude, donc qu'est-ce que c'est? Si c'était un plat, que serait-ce? Un vol au vent prolétaire ou peut-être un millefeuille à la banane, une tomate en choix mozzarella ou encore un ragoût de palourde à la framboise? Estivalitude, en tout cas, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Marie-France Bocassa, vous êtes la fille de l'ex-président de la République centrafricaine Jean Bedel Bocassa, qui s'était lui-même proclamé l'empereur Bocassa Ier. Dans votre livre « Au château de l'ogre », paru chez Flammarion, vous révélez les souffrances endurées par la fille de l'empereur et on vous plaint. Bonjour Marie-France Bocassa.
Bonjour messieurs.
Vous pouvez m'appeler Christophe.
Hein. Oui.
Franz-Olivier Gisbert, votre dernier roman « Le Schmock » chez Gallimard décrit la montée au pouvoir d'Hitler à travers une fresque familiale implacable nourrie par un souffle épique. Bonjour Franz-Olivier Gisbert.
Bonjour Christophe.
Oui, ce matin, vous l'avez compris, dans Estivalitude, nous entrons en quelque sorte dans l'intimité des dictateurs. Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Ça veut dire quoi?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Marie-France Bocassa, vous connaissiez Franz-Olivier Gisbert?
Oui.
Vous le lisez?
Je le lisais un petit peu, je le connais à travers les médias, à travers... sa carrière, en tout cas dans la presse,
ah bah énorme.
Au journal Le Point, donc oui, je connais.
Et Franz-Olivier Gisbert, si je vous dis Bocassa, vous répondez quoi?
Marie-France.
Vous dites Marie-France, vous dites pas Bocassa Ier?
Jean Bedel, Bocassa Ier, enfin, vous avez dit qu'il s'était autoproclamé empereur.
Ah oui, c'est un fait.
Oui, bien sûr, c'est un fait. Et c'est vrai que ça choque souvent ici en France, mais il faut pas oublier que Napoléon lui-même s'était proclamé empereur.
Ah mais bien sûr, voilà,
c'était pas le premier. Hein,
mais Napoléon
ça,
lui-même,
dans notre histoire, il y a des personnages comme ça qui s'étaient proclamés roi ou empereur.
Absolument. Alors votre point commun ce matin, vous l'avez compris, Franz-Olivier Gisbert et Marie-France Bocassa, c'est le fait d'aller dans les coulisses de la dictature. Franz, vous observez Hitler et vous dites en substance, mais qui l'a fait roi, en fait?
C'est ça, oui, c'est une histoire de fou.
Oui.
Comment c'est arrivé? C'est-à-dire que la vraie histoire, c'est que il n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes, contrairement à ce qu'on apprend souvent à l'école ou qu'on dit, c'est pas vrai, c'est faux. Il a fait jamais avant d'arriver au pouvoir,
oui.
Il a 30% des voix. Simplement, il y a une espèce de manip de la droite, le président Hindenburg, qui est un vieux monarchiste, et puis Franz von Papen, qui est son chouchou un peu à l'époque, ils décident, parce qu'ils n'en peuvent plus de ce type, qui progresse quand même régulièrement dans les élections, qui fait beaucoup d'agitation, on va liquider pour le liquider.
Ils le mettent au pouvoir pour le neutraliser.
Mais oui, bien sûr, pour neutraliser. Vous savez, Mitterrand a fait ça avec Rocard, ça s'appelle lever l'hypothèque. Eh ben, l'hypothèque n'a pas été levée, puisque en fait, il est arrivé au pouvoir par un putsch, par la terreur, en tuant tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est cette histoire très simple.
C'est une histoire extraordinaire.
Que je raconte. Oui, alors attention, au départ, vous avez quand même le terreau de l'antisémitisme qui était là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien que la bête est revenue. La bête avec un B majuscule, elle est là.
Elle est sur le point de revenir. Marie-France Bocassa, une question importante. Votre père, rétrospectivement, vous le considérez comme un dictateur ou vous défendez son bilan?
Je le considère comme un dictateur et en même temps, par la suite, je défends un petit peu son bilan.
C'est un peu des deux, quoi.
Oui, un peu des deux.
Ouais. Pourquoi?
C'est un mélange des deux. Parce que je suis consciente que cet homme a été mis à l'époque au pouvoir par la France. Voilà, je suis consciente qu'ensuite, par la suite, mon père a voulu faire, en tout cas, de son pays un empire. Parce qu'il idolâtrait Napoléon. Donc, il se disait être protégé, en tout cas, contre l'invasion des Français à l'époque, quand il a pris l'initiative de le faire. Oui, donc du coup, je suis un peu partagée entre l'homme dictateur et puis cet homme qui a voulu bien faire, cet ancien militaire de l'armée française, qui s'est dit avec le soutien de la France qu'il pourrait arriver à un résultat comme celui qui, enfin, pas comme celui qui s'est passé, parce que malheureusement, tout ça s'est mal terminé. Mais donc voilà.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, Franz, c'est que justement, on voit bien dans ce que vient de dire Marie-France par rapport à son père, c'est que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire que vous avez, dans cette montée au pouvoir d'Hitler que vous racontez, bon, il y a des juifs qui sont finalement favorables au nazisme, il y a des nazis qui sont pas si antisémites que ça, parce que c'est des nazis alimentaires.
Il y a beaucoup de juifs qui découvrent qu'ils sont juifs aussi, à cause du regard des autres, parce qu'ils étaient tellement intégrés qu'ils savaient à peine qu'ils étaient juifs.
Mais ce qui est passionnant dans votre livre, c'est le lien que vous établissez dès le départ avec vos propres origines.
Bah oui, c'est-à-dire que si j'ai fait ce livre, je vois bien il y a quelque chose qui me portait vers cette histoire. Parce qu'il fait 10 ans que je travaille dessus. Ça fait 10 ans que j'ai. Alors évidemment, c'est pas un essai.
Ah bah non, c'est un roman épique, vraiment.
Mais j'ai travaillé comme un chien pendant 10 ans sur le nazisme. J'ai tout lu et je pense qu'il y avait cette espèce de tropisme parce que j'ai une partie de ma famille, qui était allemande pendant la guerre.
C'est ça.
Celle que mon père a combattue parce que mon père est arrivé D-Day. Le 6 juin 1944, dans les premières vagues à Omaha Beach, comme GI américain, pour aller casser de l'allemand, quoi. C'est ça. Et puis, de l'autre côté, oui, il y avait aussi des Anglais, des Écossais. Enfin, voilà. Je suis fabriqué de gens de toutes sortes. Et puis, il y a évidemment des Normands, puisque je suis né en Normandie, comme dit la chanson.
Alors, il faut expliquer que votre livre parle d'Hitler, bien sûr, et ça s'appelle Le Schmock. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'un Schmock?
Ah, bah, il y a une belle langue, c'est le Yiddish. Le Yiddish, c'est la langue des Juifs d'Europe de l'Est. Et qui s'est énormément développé à partir de New York, aux États-Unis, parce que c'est un mot que utilisent même les non-juifs, schmock. Schmock, c'est l'insulte suprême. Ça veut dire à la fois un con.
Un con. Le schmock est avant tout un con.
Non, parce que c'est aussi un salopard. Ah non, c'est très important, c'est les deux sens. Et vous avez même le troisième sens, le pénis, et c'est un pénis un peu ramollo, si vous voyez ce que je veux dire.
Le schmock est aussi un pénis ramollo. Mais ce qui est intéressant avec Hitler, tel que vous le racontez, parce que dans votre livre, vous êtes dans l'intimité d'Hitler. Hein. On découvre petit peintre, on dîne chez lui, on va au Berghof, on se retrouve dans des meetings du parti nazi où on est assis au fond.
Alors tous les personnages romanesques n'ont pas existé, ils sortent dans mon imagination, j'ai vécu avec eux, et c'est eux, d'une certaine manière, qui ont écrit le livre. Mais c'est vrai, comme c'est un roman aussi avec une trame historique derrière, qui est pas trop présente, mais qui est là quand même, tout ce que Hitler dit, par exemple, c'est des choses qu'il disait. Par exemple, la célèbre, il y a un moment dans le livre où il parle de sa moustache, parce que tout le monde lui dit faut enlever cette moustache ridicule, et il dit « Ouais, mais si je l'enlève, on verra plus que mon nez est épouvantable, c'est comme une patate. » C'était ça, son... Vous voyez ? Et donc, chaque fois que j'ai lu ses propos de table, tous ses propos, parce qu'il parlait tout le temps, Hitler. Il parlait absolument sans arrêt. Il faisait des sortes de conférences.
Il aurait dû faire de la radio.
Oui, il aurait dû faire
plutôt que d'emmerder le monde.
La nuit, vous voyez, on l'aurait mis la nuit entre 1h du matin et 5h parce que c'était ses horaires, hein. C'était quelqu'un qui vivait principalement la nuit, qui se levait tard.
Un huiteux.
Oui, d'où la catastrophe du 6 juin 1944 parce que quand il y a le débarquement, on n'ose pas le réveiller parce qu'il dort, hein. Je crois qu'il était réveillé qu'à 10h.
Alors, c'est vrai qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand on évoque Adolf Hitler, ce tyran épouvantable aujourd'hui, on a toujours les mêmes sons, c'est-à-dire des sons, on entend, vous savez, cette voix éructante,
ridicule.
Charlie Chaplin le fait beaucoup mieux que moi, vous voyez, et pourtant, Hitler, on le sous-estimait, et à l'époque, en 1933, on le considérait comme un homme politique tout à fait normal, et je voudrais que vous écoutiez ce petit reportage de la Gaumont, Actualité française, qui date justement de 1933. Ce qui est très frappant, c'est le ton du speaker.
Les membres du nouveau ministère à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaiserhof. Monsieur von Papen, désigné comme vice-chancelier et commissaire du Reich en Prusse. Monsieur Alfred Hugenberg a reçu le portefeuille du ministère de l'économie et de l'alimentation. Voici monsieur Göring, président du Reichstag, chargé du ressort de l'aviation et des travaux du ministère de l'Intérieur prussien.
Vous voyez, on est dans une espèce de quotidienneté. C'est comme si on annonçait le nouveau gouvernement, oui, Macron ou Mitterrand.
À l'époque, et c'est incroyable, il y a presque pas de nazis dans le gouvernement.
Ils sont deux. Il y a Göring,
les autres ne sont pas des nazis.
Oui,
et puis c'est von Papen un peu qui est censé tout contrôler. Et à un moment donné, d'ailleurs, von Papen tente de lui planter le couteau. C'est le célèbre discours de Marbourg où il flingue Hitler, mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'Hitler est allé plus vite. C'est l'ennemi des longs couteaux. Il va tuer tout le monde. Enfin voilà. Compris les deux des conseillers de von Papen qui avaient écrit le discours de Marburg contre Hitler.
À votre avis, Marie-France Bocassa, comment on devient dictateur? C'est en subjuguant un peuple, c'est un charisme. Est-ce que votre père, qui on ne comparera évidemment pas à Hitler, ça n'a strictement rien à voir, mais est-ce que votre père avait un charisme selon vous? Il avait quelque chose?
Est-ce que mon père avait un charisme? Oui, bien sûr que oui. Je pense qu'en plus, il a été formé à bonne école. Comment on devient dictateur, ou est-ce qu'on a déjà en soi, en tout cas en grandissant, des atouts à être dictateur? Mon père, je pense que oui. Parce que à travers mon ouvrage, justement, je décris l'homme et on voit très bien que l'homme aime cette autorité, aime diriger, commander, aime imposer, en tout cas, imposer ses choix, ses avis, et tout le monde doit se taire autour. Donc oui, je pense que mon père avait déjà une âme de dictateur dès sa plus tendre enfance. Il savait déjà où il se dirigeait. Déjà tout jeune, je pense que, parce qu'il a été orphelin très très tôt, il a été après confié à un de ses oncles, et on voyait déjà qu'il allait, en tout cas, il se dirigeait vers une carrière avec autorité, en tout cas. Voilà.
Alors ça, c'est pour vous, la musique qu'on va entendre, Franz-Olivier Gisbert, devinez ce que c'est, Rock Around the Bunker, par Serge Gainsbourg.
Des bombes, ça boum sur boum sublime. Des plombes que ça tombe, un monde immonde s'abîme.
Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker.
Ça retombe en trombe, ça fume. Tout flambe, les tombes, les temples, exemple sublime.
Rock around the bunker.
Surplombe l'abîme. Que dame te crame, tout tremble et tombe en ruine.
Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker.
Quel provocateur. En 1975, Serge Gainsbourg sort ce disque improbable, Rock Around the Bunker, un disque fait pour le schmock.
Bukassa, premier empereur de Centrafrique. Nous, Bukassa, premier empereur de Centrafrique, jurons de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à la saine application de la constitution de l'Empire centrafricain.
Eh ben oui, c'est un beau document, hein, je dois dire. Hein, c'est quand même très très fort, 1977. Marie-France Bokassa, quand je dis, j'ai dit en vous présentant tout à l'heure, que vous étiez la fille de l'ex-empereur de Centrafrique, donc Jean-Bédel Bokassa. Alors justement, dit Bokassa premier, je dois préciser que vous n'êtes pas fille unique. Vous avez combien de frères et sœurs?
Alors, nous sommes 39. Mon père disait que nous étions 56, mais lorsqu'il est décédé, donc on, 39 enfants ont été reconnus.
C'est absolument énorme. Et vous vous connaissez? Vous faites des repas de famille?
Oui, ben sur les 39, disons qu'il y en a 3 qui sont décédés, j'en connais 35. Bon. Avec moi, ça fait 36.
Il y a ceux que votre père a déshérité, qu'il a abandonné à la DAS aussi.
Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait.
Alors, 1977, donc le président de la République centrafricaine décide de s'auto-couronner empereur. Vous avez quel âge en 1977?
J'avais 3 ans.
Vous êtes toute petite,
oui,
donc.
Oui, donc j'étais toute petite.
Vous êtes là? Vous assistez?
Non, je pense pas. Je ne crois pas que j'étais là. Non, non, j'étais pas là parce que, disons que j'ai aucun souvenir déjà dans un premier temps. Et puis, non, je pense que à l'époque, nous, on était dans un pensionnat en Suisse. Donc, mon petit frère était présent, Jean Bedel. Mon frère Jean Bedel, le fils de sa femme Catherine, d'une de ses femmes. Nous, on était
une de ses nombreuses femmes.
Voilà, une de ses nombreuses femmes. En tout cas, l'impératrice.
Combien,
voilà.
Combien de femmes?
Catherine, l'impératrice, était présente.
On ne les compte plus.
Avec ses enfants.
Combien de femmes, oui?
Il a eu 17 femmes.
Ouais. Il a été marié, mais en
marié
même temps...
Marié 17 fois.
Il a été marié 17
voilà,
fois.
Tout à fait.
Il était polygame, on peut dire les choses.
Enfin, ah bah oui, de toute façon, hein. Oui, au polygame, hein, grand polygame.
Un grand polygame. Ah ouais. Il s'était déjà proclamé président à vie. Ça a été progressif, un peu comme Napoléon III, d'ailleurs. Il s'était proclamé président à vie en 1972, puis maréchal en 1974.
Le problème de ces gens-là, c'est l'hubris. Ouais. Hein, c'est ouais. Les Grecs appelaient l'hubris, ouais. C'est un joli mot qui veut dire démesure.
Oui, tout à fait.
C'est toujours ça, je crois que c'est la base des dictateurs.
Franz-Olivier Gisbert, vous l'aviez rencontré, Bokassa?
Non.
Non, jamais.
Non, jamais.
Jamais.
Non.
Jamais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son règne n'a pas duré. Vous savez qu'en 1977, il devient empereur. En 1979, il est chassé du pouvoir. Et c'est là où le cauchemar de Marie-France va commencer. En 1983, la famille s'installe en France, dans les Yvelines, au château d'Ardricourt. Et là, on découvre, en lisant votre livre « Au château de l'ogre », Marie-France, qu'être la fille d'un empereur, c'est épouvantable.
En tout cas, être la fille de Jean Bedel Bokassa. Être la fille de Jean Bedel Bokassa.
Vous voulez dire qu'être la fille de Napoléon, c'était mieux?
Je ne sais pas si c'était mieux. Moi, j'étais pas, voilà. Mais je parle par rapport à ma propre histoire. Ben, c'est vrai que ça a été quelque chose de très compliqué dans le sens où on a laissé cet homme, en tout cas, enfermé avec ses propres enfants, alors qu'on savait déjà qu'à la base c'était un haut dictateur. Et je veux dire, quand on dit qu'en France on est dans un pays de droits de l'homme, on s'est toujours dit, en tout cas en vivant dans cet univers, dans l'enceinte de ce château avec notre père, quand est-ce qu'on allait venir justement nous sortir de là. Donc ça a été une enfance très très compliquée.
Et pour des raisons diplomatiques, personne n'osait en fait intervenir.
Non, personne n'osait intervenir.
N'osait vous sauver de ce martyre.
Je pense pas que personne n'osait. Je pense que tout le monde fermait les yeux. Par rapport à ce qui se passait, tout simplement.
Alors vous,
avec le recul, hein, je le dis.
On va être concret. Donc, vous n'êtes quasiment pas nourri. Donc, vous commencez à chaparder. Alors, d'abord, chez les voisins, vous allez voler des fruits dans les arbres des voisins. Puis, vous allez carrément au supermarché. Vous êtes très brillant. Surtout vous. Vous volez très, très bien. Mais les enfants, certains enfants se font prendre. Et pour les punir, écoutez bien, Franz, parce que c'est quand même incroyable. Pour punir les enfants d'avoir volé, Bokassa les abandonne et les place à la DAS. Il place 3 de ses enfants à la DAS.
Quatre enfants
à la DAS. Et une autre fois, il brûle dans le jardin tous les vêtements des enfants. C'est un tortionnaire.
C'est en quelque sorte un tortionnaire. C'est un tortionnaire.
Ouais,
c'est
Uburoy.
Voilà, tout à fait.
Personnage d'Alfred Jarry.
Il y a un côté Alfred Jarry. Et ça dure combien de temps, votre martyr?
Ça dure 4 ans, parce qu'en 1987, il repart en Centrafrique pour être jugé. Donc ça a duré 4 ans.
Mais après son départ, ça n'a pas été mieux parce que certaines femmes se sont occupées de vous et de façon aussi violente et dure et difficile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bokassa va finir par être amnisté en 1994, il faut préciser. Il va décéder en 1996 et les Centrafricains gardent un très bon souvenir de lui. J'aimerais vous faire entendre un extrait du journal de France Culture de décembre 2017.
Lorsqu'il vous remarquait dans la rue, il descendait de sa voiture et il vous remettait de l'argent. Tout ça, c'était des marques pour encourager les gens à exceller dans un domaine précis. Il y a eu aussi une personne qui a été nommée tout simplement parce que il a vu une jeune fille qui faisait de la maçonnerie et il a nommé ministre.
Voilà, vous voyez, un enchaînement assez fort. Franz-Olivier Gisbert,
c'est toujours au bureau, on est toujours dans la même histoire.
Mais ils sont toujours très gentils, les dictateurs. Ils descendent de voiture, ils vous donnent un peu d'argent. Il y a ce côté théâtral, en fait.
Hitler, mais mon père a poursuivi dans ce sens-là aussi, comme il l'a fait en Centrafrique. Faut savoir que dans le village d'Ardricourt où nous vivions, il distribuait justement, dès qu'il a pu, il n'était plus en résidence surveillée, qu'il a pu justement aller à la rencontre des habitants. Il distribuait quand il voyait une belle dame, il lui donnait un billet de 500 francs à l'époque. Quand il voyait un gentil monsieur, il distribuait. Donc à distribuer, sauf qu'à un moment donné, comme j'explique dans mon ouvrage, ces fameuses mallettes diplomatiques qui arrivaient avec remplies de billets, finalement les billets s'évaporaient très très vite puisqu'il les distribuait à tout le monde.
Mais sauf
et c'est
vous.
Là qu'on se retrouvait en difficulté. Sauf à nous, oui.
C'est ça, parce que vous, Marie-France, votre parcours est un parcours, je trouve, difficile. Vous avez été enceinte à 17 ans, vous avez travaillé dans un foyer d'enfants abandonnés, vous avez travaillé dans une boutique de la Croix-Rouge. Récemment, je crois que vous avez ouvert un salon de thé, et vous dites dans votre livre « Je suis capable d'amour, mais incapable d'affection ».
Oui, tout à fait, mais je pense qu'à travers la lecture de l'ouvrage, on s'en rend compte.
Vous êtes meurtrie par ce passé ? Par cette enfance si difficile?
Oui, en quelque sorte.
C'est quand même le comble d'être la fille d'un empereur et d'avoir souffert dans son enfance.
Mais disons que pendant 40 ans, j'ai été meurtrie. J'ai été meurtrie. Aujourd'hui, je commence justement une nouvelle vie. J'arrive à comprendre ce qui s'est passé, en tout cas dans mon enfance. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai qu'il est difficile de se construire à travers cette histoire, à travers ce nom en tout cas. Mais j'y compte bien. Je veux être Marie-France, comme Franz disait. Je suis Marie-France et non la fille de Jean-Baudel Bocassa aujourd'hui. Voilà, je me positionne
L'écriture, ça aide. Hein.
L'écriture, ça aide énormément.
On est dans son petit monde.
Les dictateurs, c'est des enfants, hein. C'est un peu c'est des grands enfants. Il y a une part de, même l'antisémitisme meurtrier d'Hitler, c'est comme le caprice d'un enfant qui dit je les aime pas, je les aime pas, je les aime pas. Au début, ça commence sur ce mode.
Ouais, enfin, il y a quand même
obsessionnel.
Un ressentiment, une aigreur terrible.
Lié à sa carrière de peintre.
Le fond de l'affaire, on le dit toujours, voilà, c'est ça. C'est qu'il a été recalé deux fois à l'examen pour entrer aux Beaux-Arts à Vienne. Et à partir de là, son antisémitisme est devenu absolument virulent. Mais c'est un antisémitisme qui faisait pas forcément peur à ses copains. Si vous voulez, c'est très étrange ce personnage qui était aussi effrayant.
On le prenait pas au sérieux.
On disait c'est un con, il peut pas y arriver. C'est ce que disaient beaucoup d'Allemands.
C'est ça.
À l'époque.
C'est un con et à la limite, mettons-le au pouvoir,
De toute façon, il fera pas ce qu'il a dit. Enfin, etc.
Voilà, il le fera jamais parce qu'il sera prisonnier de son alliance avec les modérés. C'est ce que tout le monde disait.
Et en fait, les modérés, ils sont tout de suite passés à la casserole.
Mais il y a des points communs justement avec notre père. Je pense qu'à l'époque, quand le gouvernement français de l'époque l'a installé au pouvoir en Centrafrique, pensait la même chose. Ils se sont dit, mais cet homme, on va pouvoir justement...
Le manipuler.
Voilà, le manipuler, en faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis, on s'est rendu compte qu'au bout de 14 ans de règne, ça se passait plus du tout comme en tout cas la France de l'époque avait prévu.
Mais alors, la force d'Hitler, quand même, ça a toujours été, c'est l'extrême violence. Cette façon, c'est quelqu'un qui est capable de tuer, qui fait peur. Et c'est ça, c'est quand même une des grandes raisons de son succès, c'est quand même ça. Il a terrorisé ses proches, il a terrorisé une grande partie de l'Allemagne.
You're
Woman, c'était l'icône du rock, sachez-le, mes amis, Karen O, avec le producteur et DJ Brian Burton, alias Danger Mouse, vous saurez tout. Wow. Non, c'est de la musicologie ce matin, dans ouais. Estivalitude sur France Inter, bien sûr. Alors, Franz-Olivier Gisbert, vous avez derrière vous et devant vous, évidemment, on vous l'espère, une grande carrière de journaliste, vous êtes directeur du Point, vous avez dirigé l'Obs, Figaro.
Non, je suis pas directeur, je suis plus directeur. Ah, je suis retraité.
Vous êtes retraité.
Je suis éditorialiste.
Vous êtes retraité, mais vous êtes éditorialiste. Et on vous lit toutes les semaines quand même.
Ce sont mes enfants, ce sont des gens que j'adore qui sont à la tête du journal aujourd'hui, mais j'ai passé la main parce que je pense que dans nos métiers, il faut savoir passer la main. C'est très dur de diriger un journal et il faut savoir à un moment donné arrêter, c'est ce que j'ai fait.
Mais journaliste, on vous le reproche. Jean-Marie Rouard disait une jolie phrase, il disait « Franz, c'est Alain Duhamel qui aurait pris du LSD ». Qu'entendait-il par là, Franz?
Je reconnais, j'ai toujours eu un côté un peu barré, irresponsable. De toute façon, quand, par exemple, quand je vais dans les lycées ou dans les facs, on me dit comment on fait pour réussir dans le métier, je dis, c'est très simple, les gars, faites pas carrière. Je crois que c'est ça, c'est très important, faut vivre à 100 à l'heure. Et puis, vous savez, il y a une formule, je disais toujours, c'était ma maxime. C'est vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est Marc Aurèle qui a dit
très
ça. L'empereur philosophe. C'est très beau.
Tout à fait.
C'est très beau. Et je disais toujours, c'était heureusement que j'ai eu un cancer en 2003, parce que c'était pas vrai avant. Je disais que c'était ma maxime, mais c'est pas vrai. Je l'appliquais pas. Et aujourd'hui, je l'applique. Vivre chaque jour comme c'est le dernier. Puis il y en a une autre aussi merveilleuse de Sainte-Thérèse de Lisieux. Faut pas oublier. C'est magnifique parce
c'est
que c'est une.
De vous entendre.
C'est une formule panthéiste. Je choisis tout, puisque dans la vie, faut toujours choisir ça ou ça. Eh ben non, moi, je choisis tout. Et puis, alors, je peux vous citer Sénèque aussi. C'est merveilleux. La vie, ça ne consiste pas. La vie, ça ne consiste pas à laisser passer l'orage, mais à apprendre à danser sous la pluie.
Alors moi, je trouve c'est très beau. Moi, je trouve qu'il y a chez vous une forme de réalisme désespéré. Ce que dit Marion van Rentergem, moi aussi je cite, dit il y a chez lui un mélange de cynisme et d'idéalisme contrarié. Est-ce que la clé de votre comportement, c'est pas de dire finalement voilà la réalité, elle est comme ça et il faut faire avec et arrêtons de nous raconter des histoires.
Non. Non, parce que je veux changer les choses. Je suis toujours révolté, je suis toujours choqué. Cynique, je sais, on m'accole ça souvent parce que c'est vrai que j'en veux beaucoup à tous les moralisateurs, les faux moralisateurs.
Il me semble.
Tous ces gens qui font.
Les donneurs de leçons, c'est pas vos amis.
C'est horrible. Bah oui, mais ils ont toujours le cul sale. Je sais pas si vous avez remarqué. Tous ces chevaliers de la vertu. Ça, j'aime pas ça. Oui, ils sont des tartuffes toujours. Bah, il suffit de regarder Molière. Il a tout dit déjà. Mais il y en a partout. Ils occupent le paysage. Ceux-là, ils me débectent profondément. Et quand vous les combattez, et quand vous les détestez, évidemment, on dit que vous êtes cynique. Mais je ne suis pas du tout cynique. Au contraire, je crois que j'ai beaucoup d'émotions. Et puis, j'ai une forme de naïveté. C'est sans doute pour ça que j'écris. Parce que quand on écrit, on est un peu comme un enfant. J'écris des petites histoires. Je me dis toujours... Je sais pas si Marie-France ressent ça.
Je suis complètement d'accord avec vous.
On est comme un petit artisan.
Ah oui, complètement.
Et puis moi, je suis même avec un petit côté couillon. Parce que j'écris pour le lecteur. Moi.
Oui.
Je veux que ça plaise. Je veux que... J'essaie de... Comment dire? D'avoir des personnages, des histoires, des bondissements. Vous savez, quand on me dit, tiens, votre bouquin, c'est un Page Turner. Je fou de joie.
Alors là, c'est le cas du
schmuck. Je suis fou de joie quand on dit ça, parce que c'est ça que j'essaye de faire. Des histoires avec des personnages. Tout le monde n'écrit pas comme ça, forcément. Mais moi, c'est ma façon de travailler.
Vous êtes un conteur.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Marie-France, vous avez souffert de ce que les journalistes écrivaient sur votre père?
Oui.
Qu'il y a eu, vous savez, il y a cette histoire qu'on a dit, c'était que Bokassa était cannibale. Vous en parlez longuement dans votre livre au Château de l'Ogre, de cet aspect-là. Et vous expliquez ça, vous dites en fait, on a dit ça parce qu'il est d'origine pygmée.
Alors, entre autres, j'ai expliqué ça par rapport à ses origines. En tout cas, c'est ce que notre père nous disait. Et ensuite, par la suite, ça s'est confirmé. Je me suis renseignée. Effectivement.
Alors, les pygmées ont l'habitude de manger leurs adversaires. C'est
voilà,
ça,
tout à fait.
C'est ça l'idée.
C'est
quoi.
Une tradition, en fait, en Centrafrique, en Afrique centrale. C'est que les pygmées mangent leurs ennemis, les tuent et les mangent pour en prendre leur force. Donc, mais après, ça justifie pas qu'on ait, en tout cas... traiter mon père en tant que cannibale.
Alors il paraît que lors d'un dîner en 1977, il aurait dit au ministre des Affaires étrangères Robert Gallet, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais vous venez de manger de la chair humaine lors d'un banquet au palais présidentiel. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de Robert Gallet, en tout cas?
Alors, je sais pas si cette affirmation est vraie ou imaginaire. Après que mon père ait dit ça, c'était peut-être un peu sous une forme d'humour. Faut savoir que leur banquet était bien arrosé, Après, quand il dit chair humaine, peut-être qu'il comparait ça, c'est comme je dis, aux singes, puisque les singes sont très proches de
nous. Mais vous, vous l'avez jamais vu pratiquer le cannibalisme?
Non, je l'ai jamais vu pratiquer le cannibalisme.
C'est une calomnie contre votre père.
Voilà, c'est une calomnie, c'est quelque chose qu'il a toujours nié. Et c'est, durant mon enfance, en tout cas, j'en ai beaucoup souffert. Et même dans ma vie d'adulte, et même aujourd'hui, je suis confrontée à ça, hein, parce que je suis exposée, étant gérante d'un salon de thé bar.
Mais voilà, qui est fermé, je crois, en ce moment, parce que vous êtes ici.
Voilà, parce que je suis ici, qui sera ouvert cet après-midi.
Et c'est dans quelle ville?
Mais c'est vrai que voilà,
c'est à Melun, c'est ça?
Oui, c'est à Melun, Melun en Yvelines.
Vous allez chez Marie-France à Melun dans sa montée. Hein, moi, je vous appelle à y aller. Alors, il y a une autre affaire concernant Bokassa dont on a beaucoup parlé en France. C'est l'affaire des diamants. Cette affaire des diamants de Bokassa qui avait à l'époque éclaboussé le président Valéry Giscard d'Estaing. Écoutez, Valéry Giscard d'Estaing qui en parle en mars 1981.
Ça n'était pas du tout, comme on l'a dit, des diamants, c'est-à-dire de grosses pierres ayant une grande valeur et qu'on pouvait garder pour soi ou auxquelles on pouvait donner je ne sais quelle destination. C'était les produits de la taillerie de Bangui qui sont plutôt utilisables, je dirais, pour la décoration en bijouterie. Ils sont restés à l'Élysée, je m'en suis occupé. Et lorsqu'il y a eu un nouveau chef d'État centrafricain, je lui ai indiqué qu'il serait vendu et que le produit serait versé à des œuvres centrafricaines.
Ça a été fait ?
Ça a été fait. Pourquoi y avait-il ces attaques contre moi? L'idée, c'était de m'écœurer. Ça, l'idée. Et bien, c'était mal me connaître.
Franz-Olivier Gisbert, vous la trouvez bien, la réponse de Giscard, quand on l'accuse d'avoir donc reçu des diamants que Bokassa lui aurait offerts?
Bah, écoutez, cette affaire-là, on ne connaît pas la fin. Ça fait partie de ces histoires, vous savez, qui relèvent un peu du fantasme. On ne sait pas trop. Moi, je ne sais pas. Je sais pas, et je trouve dans notre métier, l'honneur de ce métier, de temps en temps, ça doit être dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, on va voir, et puis d'écouter les différentes parties. Vous avez bien vu que il y a eu un énorme emballement médiatique autour de ces diamants, et je pense que d'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing a perdu l'élection de 1980, puisque tout simplement, il s'est pas battu.
On pense un peu à Fillon avec les complets.
Il a été méprisant, Non, parce que l'histoire de Fillon, c'était d'une certaine manière, bon, les faits étaient là, quoi, ils étaient avérés. Là, Giscard a même pas essayé de se défendre, il s'est défendu, il a commencé à répondre des années après.
Franz, quelle question voulez-vous poser à Marie-France Bokassa? Vous avez une question pour elle.
Bah oui, forcément, c'est qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son père quand, dans quelques décennies, hein, dans très très longtemps, elle le retrouvera là-haut? Qu'est-ce qu'elle a envie de lui dire?
Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis quelque part que je suis en tout cas fier de ce qu'il a pu faire, en tout cas de son vivant, parce que je me dis que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la carrière qu'il a eue. Après, je lui dis que je suis pas très fier de son parcours de père, parce qu'il a quand même laissé des femmes sur le bas-côté, des femmes qui ont été complètement détruites par cet homme, des enfants aussi. Donc le côté paternel, père, homme, je suis peu fier. Pour son parcours et sa carrière politique, et en tant que chef d'État, moi c'est son parcours de vie sur lequel je suis fière. Pas son parcours politique, pas son parcours de père, mais en tout cas son parcours de vie.
Vous pensez que ça a été un grand dirigeant ?
Non, je pense que ça a été un dirigeant parmi tant d'autres. Un grand dirigeant, non. Non, non.
Estivalitude sur France Inter.
Le soleil, Sacramento, goudron fondu, l'après-midi. La voiture brûlante, le capot. Sur le garçon, une fille s'appuie. Alors vouloir être à leur place, alors sentir mon cœur qui bat. Le motel Minnesota, et sur les fleurs du couvre-lit. Dans trois minutes, il entendra ses pas approchant dans la nuit. Juste vouloir être à leur place, juste sentir mon cœur qui bat. La chamade, la chamade, la chamade. Le drive-in dans l'Idaho, elle vient d'attraper la portière. À 23h, l'air est si chaud. Alors s'embrasser à l'arrière. Ce soir, vouloir être à leur place. Ce soir, sentir mon cœur qui bat. La peur des adieux, pourtant vouloir être à leur place, pourtant sentir mon cœur qui bat.
Un extrait en avant-première du nouvel album de Vincent Delerme à paraître en octobre, c'était La Chamade, une programmation à cœur battant de Muriel Pérez.
Vous avez dit.
Ah non. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt?
Moi, je fais partie des connards aussi qui ont diabolisé Le Pen. Vous avez vu le résultat. Bon, faut aussi en tirer les leçons. Et la fille n'est pas tout à fait le père. Donc, on a eu tout faux.
On a eu tout faux. Ça, c'est vous, Franz-Olivier Gisbert. Une façon de dire les choses, dire la vérité, peut-être même si ça peut déranger justement beaucoup de moralisateurs.
Et puis, ne pas hésiter à dire qu'on s'est trompé. Ça m'est souvent arrivé dans ma vie de journaliste. Ouais. D'ailleurs, je l'ai dit parce que j'ai fait une prestation en face de Le Pen où j'étais venu l'interroger dans le cadre de l'heure de vérité en 1984.
Ouais.
Mais j'étais très 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 mauvais. Je m'étais mis
Pourquoi
en colère, j'étais extrêmement agressif. Et puis d'ailleurs, à un moment donné, il s'est marré, il a mis les rieurs de son côté. Donc évidemment, tout se retournait, c'était complètement...
Plus on était agressif contre Le Pen, plus on le faisait monter,
oui,
c'est ça en fait.
C'était tellement vrai que quand je suis parti, je me souviens, ses filles m'ont applaudi. Parce qu'évidemment, j'avais servi le père.
Parce que vous aviez servi la soupe au père malgré vous, en
quelque
sorte.
Oui, malgré moi. Oui.
C'était seul l'idiot utile, Bernard Tapie savait parler à Le Pen, finalement.
Oui, à l'époque, bien sûr. Mais j'ai fait des progrès depuis, parce que j'avais pas tellement l'habitude de la télévision. Aujourd'hui, je sais que je me débrouillerais différemment. Mais, de toute façon, il faut pas hésiter à dire qu'on s'est trompé. Je crois que c'est fondamental dans la vie. C'est vrai dans la vie de journaliste. C'est vrai dans la vie d'écrivain aussi, bien entendu, parce que on fait des erreurs.
On fait des erreurs. Marie-France Bocassa, vous avez une question pour Franz-Olivier Gisbert.
Oui, Christophe.
Oui.
Alors, je voudrais savoir ce que Franz porte, enfin, le point de vue de Franz par rapport à son regard sur l'Afrique noire. Quel regard portez-vous?
Bah, c'est évidemment un continent qui me fascine, comme tout le monde, parce que c'est de là que nous venons, en fait. Hein. Nous venons tous de l'Afrique. C'est le berceau de l'humanité, de l'espèce humaine. Et moi, ça me fascine parce que c'est un continent qui est en train de renaître complètement. Oui. Ça se voit pas, c'est pas l'impression qu'on a. Les Français, notamment, d'ailleurs, peut-être parce que c'est un ancien peuple colonial, ont du mal à le voir, mais il se passe des choses extraordinaires.
Oui.
Le développement économique, des croissances à deux chiffres dans certains pays.
Tout à fait.
Alors évidemment, il y a encore beaucoup de misère. Mais enfin, on est sorti de l'image de l'Afrique qui souffre de la famine.
Oui, tout à fait.
Mais on a l'impression que ces espèces de vieux schémas reviennent tout le temps. Or, voilà, c'est c'est un pays de conquête, une sorte de nouvel Eldorado. Moi, c'est quand même cette impression que j'ai, et je fais partie des gens, mais ça, c'est quelque chose qui apparaissait dans la presse anglo-saxonne, notamment américaine, depuis déjà 10-20 ans. Et je trouve qu'en France, on a du mal à voir la réalité, c'est-à-dire la réalité de la Côte d'Ivoire, par exemple, où c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés, mais en même temps, il y a une croissance économique extraordinaire, il y a des tas de gens qui ont des projets, il y a une espèce de grouillement. Et puis, je veux dire, l'histoire de la démographie qui est peut-être un peu trop galopante, et puis la croissance économique, on sait très bien que, c'est gagnant-gagnant pour ça a été gagnant-gagnant pour la Chine. Alors évidemment, à un moment donné, il faudra sans doute freiner un peu la démographie qui va trop vite.
Franz, vous avez dit en répondant à un questionnaire que vous croyez en Dieu.
Bien sûr,
c'est rare de nos jours quelqu'un qui dit je crois en Dieu.
On a plusieurs points communs.
Moi aussi, j'ai deux croyants autour de la table.
Oui, je crois en Dieu, bien sûr. Pourquoi?
Pourquoi
mais qu'est-ce
pas
qui est étonnant? Mais oui, mais on vit dans un monde daté. Ouais. Vous voyez, par exemple, Will Smith, vous voyez, on dit.
Ah, mais il n'y en a pas. Je vous pose la question. Ça m'intéresse de comprendre ce que vous y mettez, ce que ça change.
Bah, mon Dieu, il est, comment dire.
Vous qu'on dit cynique.
Ça part du catholicisme de ma mère. Ma mère était très chrétienne, très croyante, et m'a inculqué ça. Je l'étais déjà dans le ventre de ma mère. Et puis, j'ai fait mon petit marché quand je suis devenu grand, et j'ai épuisé ici ou là. Et c'est vrai que j'ai peut-être mis dans ce catholicisme de départ un peu de bouddhisme, un peu de d'hindouisme, et puis beaucoup de panthéisme aussi, voilà. Et puis de spinozisme aussi, si vous voulez. Donc voilà, ça s'est élargi évidemment.
Alors Franz, on vous a demandé évidemment de nous dire le son qui vous résume. Et alors on aurait pu imaginez que vous alliez mettre une phrase de Sénèque ou quelque chose, pas du tout. Le son qui vous résume, c'est ça. Écoutez, c'est le meilleur disque que j'ai entendu depuis longtemps, là.
C'est génial.
C'est remarquable.
C'est génial. C'est génial.
Alors, c'est les cigales. Faut
pas dire. Bien sûr, sur les cigales, moi, je crois que tout le monde les a.
Ah non, moi, j'aurais pu dire des criquets, peut-être.
Mais alors, les cigales, c'est chose de merveilleux, parce que c'est une bête qui souffre toute sa vie, puisqu'elle vit sous terre. Elle boit sa propre urine, d'ailleurs, dans les périodes difficiles, parce que c'est tellement sec. Oui, bien sûr. Non, mais c'est des bêtes qui souffrent, vous voyez. Puis un jour, elles sortent, ça dure très peu de temps, d'ailleurs. Et puis là, d'ailleurs, elles sont la proie des guêpes, de tas de prédateurs.
Ouais.
Et elle chante, c'est un appel sexuel. C'est un appel sexuel.
Ah, c'est un appel sexuel, le cri de la cigale est un appel au mâle. Je ne savais pas.
Bien sûr.
D'accord,
c'est la première chose. Et comment dire, c'est un enchantement. Vous savez, c'est autour en général du 21 juin, 22, 23, mais c'est souvent le jour de l'été. Elle commence à apparaître en Provence, et vous ne pouvez pas savoir l'excitation des gens. C'est juste merveilleux. Ça y est, elles sont là, elles sont revenues.
Marie-France Bocassa, vous, le son qui vous résume, c'est ça.
Mes chers amis, chers camarades et compatriotes sud-africains, je vous remercie tous au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté pour tous. Je me tiens ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur de vous, le peuple.
Non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur, c'est le contraire de moi, l'empereur. Hein,
il voilà, faut bien
dire. Alors, oui. C'est qui Marie-France Bocassa?
C'est Nelson Mandela.
Nelson Mandela, c'est
votre belle personne.
Vous voulez quand même poser la question, faire comme si je savais pas.
Parce que c'est sûr, vous savez.
Pourquoi vous avez choisi ce discours précisément de Nelson Mandela?
Mais parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même s'il n'est plus là aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un qui prône toujours pour la liberté, en tout cas de chacun, et la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de... Voilà, la liberté, c'est quelque chose qui résonne en moi, et la paix aussi, la paix dans le monde. Donc oui, c'est un discours qui me ressemble, en tout cas. Et
cette humilité aussi.
Et cette humilité aussi, qu'il a, tout à fait.
Qui tranche avec justement la morgue.
On n'est pas dans l'hubris.
On n'est pas dans l'hubris, là. Je suis le serviteur de mon peuple, d'une certaine façon. Et c'est votre point commun aussi à tous les deux, Marie-France Bocassa et Franz Olivier Gisbert. Franz, vous êtes d'origine américaine. Marie-France, vous êtes d'origine...
Normande aussi, les deux.
Oui, mais c'est comme Marie-France qui est aussi, entre autres, d'origine africaine. Et taïwanaise, vous normand et américain, enfin c'est d'une complexité totale. Finalement, la France, c'est un choix ou c'est le hasard de la vie?
C'est un choix. Pour moi, c'est vraiment un choix. À un moment donné, j'aurais pu hésiter parce que c'est vrai que j'étais de nationalité américaine, de père américain, né aux États-Unis. Mais c'est vrai que j'ai choisi la France et je suis devenu français. Alors, je dis pas que je me sens pas américain quand je suis aux États-Unis parce que ce serait faux de dire le contraire. Mais en même temps, je suis furieusement français. J'adore la France.
En un mot, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Marie-France, vous vous sentez française ou africaine aujourd'hui ou taïwanaise?
Alors, on m'a posé la question la semaine dernière sur une, voilà. Moi, je me sens humaniste. Voilà.
C'est
moi,
parfait. Très jolie réponse.
Tout à fait.
Tu veux que je te raconte un souvenir?
Un souvenir? Ah oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Eh ben oui, bien sûr, c'est l'été, vous le savez, l'émission s'appelle quand même Estivalitude, je vous le rappelle. Je pense qu'en février, ça marcherait pas du tout. Et donc, la question brutale que je vous pose maintenant, c'est quel est votre plus incroyable souvenir de vacances? Alors, Marie-France Bocassa, votre plus incroyable souvenir de vacances est très récent. Ah non, c'est pas très... Oui, c'est récent.
Oui,
c'est l'été
récent.
2018.
Oui,
l'été
oui,
dernier,
tout à fait.
Quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi de partir à l'aventure et d'affronter toutes mes peurs, parce que faut savoir que par rapport à cette enfance qui a été un peu bannie où j'ai pas pu m'exprimer, même si je faisais les 400 coupes, au passage du monde à l'adulte, j'étais comme frustrée, apeurée par rapport à tout cet univers autour de moi. Et puis pendant 20 ans, j'ai pas fait grand-chose. En tout cas, j'ai pas fait grand-chose. Partir en vacances, j'arrivais plus. J'avais plein de phobies, j'avais peur de tout. Et donc l'été dernier, j'ai décidé d'affronter mes peurs en allant justement, ça paraît bête, mais rien que mettre les pieds dans l'eau, j'avais du mal avant. Et là, je l'ai fait et j'ai décidé d'escalader, de monter des montagnes, enfin de grimper sur de respirer le paysage et
Vous êtes dans un processus de libération.
Ouais, je suis
dont
dans
votre
un processus
livre
de libération.
Château de l'Ogre témoigne bien évidemment.
Ouais. Donc,
alors oui.
J'ai du mal un peu à l'exprimer parce que c'est quelque chose de très fort que je vis depuis un an. L'écriture en tout cas de cet ouvrage et la publication, j'ai l'impression que ça me bouleverse beaucoup. Je suis en train de, comme je dis, je suis en mutation. Je passe de étant la fille de quelqu'un, en tout cas à ma propre identité à moi. Donc voilà, il y a une multitude de choses qui m'arrivent et c'est toujours très compliqué de poser des mots par rapport à ce qu'on ressent.
La chrysalide est devenue papillon.
Voilà, c'est ça.
France, en un mot, parce qu'il est déjà 9h57. Ouais. Vous, c'était votre souvenir de vacances, c'était vos 20 ans aux États-Unis.
Oui, j'avais fait le tour des États-Unis, j'avais été partout, sans un sou, en voiture, loin des bagnoles, enfin, c'était très bizarre. Et c'était un été où j'hésitais un peu, je me disais, qu'est-ce que je vais devenir? Et je crois que c'est un des plus belles étés que j'ai passé, et pourtant à la sortie, je me dis non, je retourne en France. Je suis français.
L'été où on se pose toutes les questions sur son destin.
Oui, vous savez, c'est souvent à 20 ans autour de ça.
Ah bah c'est ça.
À un moment donné, qui suis-je, où vais-je?
C'est pendant l'été, quand on est loin de chez soi, qu'on se dit, mais est-ce que je suis en train de me tromper complètement?
Je suis retourné chez moi, en France, où j'étais élevé.
Et où vous êtes aujourd'hui. Marie-France Bocassa, merci beaucoup. Franz-Olivier Gisbert, merci encore.
Merci.
Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Marie-France Bocassa, votre livre Au Château de l'Ogre est paru chez Flammarion. Et on peut visiter votre salon de thé, l'Instant T, à Melan. Il est ouvert du mardi au samedi, je précise, de 9h à 20h.
C'est la reine des cocktails.
Ah, il paraît qu'elle fait très bon cocktail. Franz-Olivier Gisbert, votre dernier roman, Le Schmock, est paru chez Gallimard. Et on peut vous lire, bien évidemment, chaque semaine dans Le Point. Vous pouvez bien sûr écoutez et podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est Juliette Medevielle qui réalise chaque jour Estivalitude. Et je remercie Saad Merzak, Pierre Goulencourt et Astrid Landon pour leur concours à la technique aujourd'hui. Clément Berman, notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter.